Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 minutes avec. Aujourd'hui, nous allons parler environnement, écologie, nous allons parler de la COP qui se déroule à Dubaï en ce moment. Une vraie hérésie, un vrai non-sens pour tout un chacun qui se respecte et qui a à cœur l'écologie. Et en fait, justement, il y a des groupes ici à Nîmes qui s'en préoccupent de cette question de « Nous n'irons pas à Dubaï, les communs d'abord » qui organisent la COP d'ici. Et la COP d'ici, elle a débuté le 18 novembre et elle aura lieu jusqu'au 12 décembre avec une multitude d'événements. Et pour nous en parler, nous sommes avec Jacques Sarda qui représente aujourd'hui Nîmes en transition. Bonjour Jacques.
Bonjour Ambline.
Merci de venir dans notre studio pour nous parler de cette fameuse COP d'ici. On est bien donc, nous n'irons pas à Dubaï, nous souhaitons en fait faire évoluer les choses ici, en local. Pas besoin d'aller dans une énorme ville montée de toutes pièces.
Tout à fait. Alors Dubaï, effectivement, c'est vraiment le prototype parfait de ce qu'il ne faut pas faire déjà en termes de développement. Et comme par hasard, sans doute du fait qu'ils pèsent dans l'économie mondiale pas grâce à leur pétrole, et aussi d'héberger des tas d'influenceurs, d'influenceuses, etc. etc. Voilà, donc ils ne pèsent pas dans le bon sens, faut le dire. Mais ils pèsent lourd dans l'économie du monde, finalement, et en termes d'influence.
Et en termes de poids également, parce qu'en plus, donc, cette COP est dirigée par un des, justement, des chefs, un des présidents.
Le président de la Société pétrolière nationale. Et sultan de plus, donc en plus il fait partie de la société dominante. Voilà. Donc globalement, déjà que quand on regarde l'histoire des COP, alors les COP, je reviens juste dessus, les COP ça s'appelle les conférences des parties en fait, ça ne veut pas dire grand chose, mais en gros c'est les conférences qui, entre les pays qui parlent du climat annuellement. Là on arrive à la 28e, ça veut dire qu'il y a 28 ans, depuis 28 ans il y a des COP. Globalement, si on regarde par exemple donc l'évolution de la concentration en CO2 dans l'atmosphère qui conditionne directement la question du climat, ben depuis 28 COP, la concentration n'a cessé de monter. Donc globalement, les COP n'ont pas d'effet sur l'évolution du climat. On prétend que oui, et puis non. On s'est félicité d'un accord de Paris il y a quelques années. Exemplaire soi-disant. Le GIEC, donc les gens qui se préoccupent du climat, mais eux, en termes de les scientifiques, nous disent que d'ici 2030, il faudrait baisser de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, donc principalement issues des...
Du pétrole,
du gaz, du charbon.
Des énergies fossiles.
Des énergies fossiles, voilà. Et en fait, si on regarde les réponses des pays aux accords de Paris, ben on est sur une trajectoire de baisser de 2% les émissions. Donc, baisser de 2% les émissions, ça ne fera absolument pas baisser la concentration dans l'atmosphère. Donc, on est sur une mauvaise route.
Oui, on est donc bien loin de ce qu'il faudrait atteindre.
Voilà. Et d'autre part, on n'associe pas du tout les associations à la base, les citoyens, etc. Globalement, ça se passe dans des sphères qui ne nous regardent pas. Donc, effectivement, nous avons décidé, nous avons dit, voilà, on a pris ce petit slogan, « Nous n'irons pas à Dubaï ». Il se trouve qu'on n'est pas les seuls à l'avoir dit. Il y a des scientifiques ici en France, par exemple, qui ont aussi organisé des espèces de contre-COP pour sensibiliser la population, parce que c'est bien l'objet. Voilà. Alors, dans des COP, on est censé décider des choses. Nous, on dit... on nous dit parfois, mais vous pouvez rien décider puisque vous n'êtes pas élu, vous ne possédez pas de foncier, vous n'êtes pas milliardaire et vous ne pouvez pas investir à droite à gauche. Et c'est vrai. Pour autant, quand on prend par exemple l'exemple de la ressourcerie Réanime, qui est route d'Arles, cette ressourcerie, elle est née il y a exactement 5 ans. Elle vient de fêter la semaine dernière ses 5 ans d'existence. Et elle est née dans l'année précédente, ses 5 ans, au sein de Nîmes en Transition, qui était la réunion de tout un vivier d'associations qui s'intéressaient à ces questions de l'avenir. Elle est née de la rencontre de 3 personnes qui ne se connaissaient pas avant et qui avaient envie de s'intéresser à cette question des déchets en disant « mais c'est pas possible qu'on continue à creuser ce trou de bouffer des ressources de la planète et de faire à côté une montagne de déchets. » Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, elles ont eu l'idée de monter cette ressourcerie. Il se trouvait qu'au même moment, en gros, en France, il y avait une espèce de fédération des ressourceries qui était en train de se monter.
Donc c'est plutôt faire, et avoir l'idée, et
c'est
surtout
faire.
Voilà. Construire, créer quelque chose pour proposer autre chose, une autre alternative aux citoyens.
C'est ça. Et le faire, sans les soutiens des pouvoirs publics, ils ont eu quelques soutiens parce qu'ils ont, dégagné des appels à projets de la part de la métropole, mais globalement, il n'y a pas de subvention. Aujourd'hui, après 5 ans d'existence, il y a 7 emplois pérennes à la ressourcerie. Ils reçoivent plusieurs tonnes de matériaux chaque semaine qui sont orientés dans les bonnes filières et une bonne part, 20-30% de la masse totale, alors je raisonne en tonnes, sont remis dans la boutique à des prix très très bas. Donc il y a aussi un bénéfice social de la part d'une population locale. On évite un déchet, puisque un déchet, c'est pas, on appelle ça un déchet, mais de fait, un déchet est souvent une ressource pour quelqu'un d'autre. Donc ça, la ressourcerie participe largement à cette histoire de la COP, mais pas que. C'est-à-dire que la ressourcerie, elle incarne un peu le côté faire, et par contre, il y a aussi le côté réfléchir ou s'informer. Donc il y a eu des fresques des déchets, il y a eu des fresques du climat, il y a eu de très belles conférences, et notamment
celle de Arthur Keller.
Arthur Keller, vraiment, là, c'était le top niveau, parce que lui, c'est un expert... des questions de système. Il étudie les systèmes. Et les conditions de la résilience. Et globalement, il nous montre que, on va se préoccuper un peu du climat, un peu de la biodiversité, un peu de l'économie, un peu de la montée des populismes. Mais tant qu'on ne fait pas le lien du système qui génère tout ça, globalement, on ne fait que des pincements sur des jambes de bois. Et que donc, ça veut dire que, alors que c'est pas du tout un idéologue politique, hein, mais globalement, il dit, ce système, il produit ça. Et c'est donc, c'est le système en lui-même qu'il faut changer. C'est-à-dire que c'est même pas guérir le système, c'est changer le système. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre médecine. Si on fait le parallèle avec les médecines, c'est ça. Lui, il dit, si vous avez mal à la tête, mal au ventre et des problèmes de peau, si vous soignez les 3 choses indépendamment, ça va vous tenir un petit moment. Mais peut-être que ça, c'est le symptôme d'une maladie beaucoup plus grave, un cancer généralisé, etc.
C'est les 3 symptômes d'autres choses.
De notre mal.
Et là, en fait, au final, ce serait un peu ça aussi.
Et ben, là,
des
on
problèmes
est...
dans le climat, des problèmes sur la biodiversité, des problèmes sur la montée du populisme. Ce sont des paramètres, des causes à englober et non pas à aller traiter individuellement, indépendamment.
C'est ça, c'est de bien comprendre que tout ça, c'est un seul et même système. Et évidemment, j'ai failli oublier là-dedans les inégalités. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les milliardaires s'enrichissent à des vitesses folles, alors qu'il y a toujours plus de gens complètement démunis. Souvent travaillent pour les autres en plus. Donc c'est là que c'est un peu cynique.
Et on a aussi cette ressourcerie qui donne des très bons conseils, des très bonnes idées, notamment pour Noël, dans quelques temps. Et oui, on sera déjà à Noël. Et c'est aussi de hacker Noël, peut-être. Alors, le hacker Noël, c'est un peu fort, mais je trouve que c'est, en fait, voir peut-être Noël différemment et le voir moins dans de la consommation, mais peut-être un peu plus raisonné, avec du papier non à usage unique.
Pas du papier, en fait. La proposition, c'est de faire des emballages en tissu, des sacs en tissu qui pourraient après être utilisables pour aller chercher des pâtes en vrac ou n'importe quoi, mais en tout cas, on peut offrir un cadeau là-dedans. Et le cadeau peut éventuellement être d'occasion si c'est un jouet ou vintage, c'est-à-dire invendable parce qu'il est passé de mode depuis 20 ans. Et puis, on peut le mettre au pied d'un sapin qui, au lieu d'être allé le chercher dans la forêt, ou en plastique venant de Taïwan, ou de Taïwan ou de Chine, peu importe, j'ai pas de préjugés, il pourrait être fait en palette de récup, etc. etc. Noël sera pas moins beau. Simplement, Noël sera moins consommateur de ressources, moins impactant. Et ça, c'est un modèle qui montre qu'on peut faire de la... Alors, le vilain mot, on peut faire de la décroissance sans diminuer son niveau de confort, en fait, ou de bonheur, ou de bien-être.
Donc tous ces événements qui sont organisés par les communs d'abord, donc pour cette COP d'ici, nous n'irons pas à Dubaï. Il y en a encore, certes il y en a beaucoup qui sont déjà passés, mais il en reste encore beaucoup, donc je vous invite à retrouver le programme sur lescommunsdabordnimes.fr. Et si vous le voulez bien Jacques, on se retrouve demain pour un grand événement justement à annoncer, c'est celui de samedi 9 décembre avec une grande agora citoyenne.
À demain.